Voici, Seigneur, je vais donner aux pauvres la moitié de mon bien, mais tout ce que j'ai pu extorquer, je le rends aux pauvres. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et pour sauver ce qui est perdu.
Cela dura pendant 9 années. Après ce temps, la cathédrale
certainement le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, et son succès immense qui a créé un large mouvement populaire en faveur de la cathédrale. Vaste symphonie entière, écrit Victor Hugo en 1831. Œuvre colossale d'un homme et d'un peuple, tout ensemble une et complexe, produit prodigieux de toutes les forces d'une époque, sorte de création humaine en un mot, puissante et féconde comme la création divine, dont elle semble avoir dévoré le double caractère, variété, éternité. C'est ici qu'a retenti le Te Deum pour la victoire de 1945 et qu'ont été célébrées les funérailles des maréchaux célèbres et des grands hommes de la nation. Le pape Jean-Paul II est venu deux fois visiter Notre-Dame. Le pape Benoît XVI est venu en septembre 2008 et il y a tout ce qu'il faudrait dire encore. Mais à Notre-Dame de Paris, tous ces grands événements, dispersés dans le temps, se rassemblent et se résument dans la profondeur de Dieu et dans la réflexion qu'il inspire. Car c'est ici que le Dominicain Lacordaire, en 1841, prononça son discours sur la vocation divine de la France. Nous appartenons tous à deux cités, disait-il. Nous avons tous deux patries, la cité spirituelle et la cité temporelle, la patrie de la foi et la patrie du sang. Et quoique distinctes, ces deux patries ne sont pas ennemies l'une de l'autre, bien loin de là. Elles sont unies comme l'âme et le corps sont unis. Et de même que l'âme aime le corps, bien que le corps se révolte de son contraire, de même la patrie de l'éternité aime la patrie du temps et prend soin de sa conservation, bien que celle-ci ne réponde pas constamment à son amour. Mes frères, à cette justesse de vue, ajoutons simplement que c'est l'âme qui apporte la vie et qui la donne au corps, et non la tête. Entre la patrie céleste et la patrie terrestre, il y a un ordre de priorité pour ce qui est de donner la vie. Les deux patries ne sont pas à égalité, lors même qu'elles fraternisent. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le dit suffisamment au Christ, ta face est ma seule patrie. Or, pourtant, nous le savons, Sainte Thérèse s'est identifiée mystiquement à Sainte Jeanne d'Arc, dans un même amour immense pour la France. Cela parce que, pour paraphraser la Corbeille, il peut arriver qu'entre la patrie céleste et la patrie terrestre, il se forme un dévouement réciproque, et que de la fraternité des deux naisse une sorte de patriotisme surnaturel. David et tous les prophètes, et saint Paul avec eux, ont été remplis d'élan patriotique pour Israël et notre Seigneur lui-même a pleuré amèrement sur Jérusalem à la pensée qu'un jour elle serait déportée. Jeanne d'Arc et Thérèse ont nourri les mêmes sentiments pour la France et ici, à Notre-Dame de Paris, Dieu entretient toujours ce même amour. Dans cet amour, nous comprenons que ce n'est pas la patrie terrestre qui doit naturaliser la foi et peu à peu réduire Dieu un phénomène psychologique et culturel parmi d'autres, mais que c'est la foi qui doit surnaturaliser le service de la patrie pour que cette patrie apprenne à respecter les droits de Dieu dans tous ses enfants, sous peine de s'égarer peu à peu, loin de la justice et de la vérité. Il n'appartient pas à la patrie terrestre de définir et de décider par elle-même, par voie légale aux besoins parlementaires, qui a le droit de vivre et qui ne l'a pas, qui a le droit de connaître ses origines et qui ne l'a pas. À travers la légalisation de l'avortement et aujourd'hui la légalisation du mariage homosexuel, conduisant logiquement tout coupable à la procréation artificielle des enfants, le législateur français construit la patrie terrestre sur le meurtre et la blessure des plus petits des siens. Mais ici, à Notre-Dame, les veillées de prière pour la vie rassemblent des fidèles de toute l'île de France pour demander à Dieu la grâce de mener le combat pour la vie dans la persévérance, l'énergie et la dignité. C'est ici qu'on prend conscience, en ces jours où nous sommes, que l'amour surnaturel pour la France, pour ses grandeurs et pour sa liberté, veut dire très concrètement le même amour égal pour tous ses enfants, y compris les plus faibles, dans leur droit à la vie et à leur sanctité. Beau combat où il faut écouter, argumenter, réfuter, prendre foi. Beau combat où il faut montrer la vraie vie conjugale et familiale, fondée sur la nature des corps, face à ces contrefaçons, fondée sur les besoins de l'ego. Lors de l'inauguration des célébrations de jubilé, le 8 décembre dernier, le cardinal archevêque de Paris rappelait que le péché originel a défiguré la relation entre Adam et Ève. Disons qu'aujourd'hui, c'est bien le péché, mensonger dès l'origine, qui voudrait, au nom de la loi, dénaturer cette relation entre l'homme et la femme et sa fécondité. Mais la France résiste plus que d'autres pays, et elle résistera encore, dans la durée, avec autant de force que d'intelligence, jusqu'au jour où les dames de sang qu'on veut faire passer pour des feux de paille la remettront debout, grandie par ses épreuves. Dans son récent discours à l'Académie des sciences morales et politiques, le cardinal archevêque de Lyon relève que les autorités romaines ont été impressionnées par l'attitude des catholiques de France face aux réformes du mariage et de la filiation. Et ces autorités romaines ont remercié les évêques en visite ad limina pour leur appel à la prière, au jeûne et à la réflexion, menée avec des juristes, des éducateurs, des philosophes, des psychologues et des représentants des autres religions. Et le cardinal de Lyon de voir que dans cette attitude exemplaire, il y a peut-être cette France éducatrice des peuples, comme l'a nommé le pape Jean-Paul II en 1980. C'est que cette France est aussi la fille aînée de l'Église, même si ce titre est tardif et sans doute imputable à la corvère ici même à Notre-Dame en 1841 seulement. Fille aînée de l'Église parce qu'elle a soutenu régulièrement le Saint-Siège du XIIIe au XIXe siècle, et surtout parce qu'elle a soutenu et soutient encore l'Église dans le monde entier, œuvres pontificales et missionnaires sont parties de France. Et qu'a-t-il fallu l'Esprit Saint pour qu'un jeune théophane vénard s'écrit à 9 ans « Moi aussi je veux aller au Dunga, moi aussi je veux être martyr. » Voilà cette France, fervente et missionnaire. Mais France indissociablement, brillante et constante. Dès le XIIIe siècle, elle était appelée le four où cuit le pain intellectuel du monde entier. Cette nation dont le pape Paul VI aimait à redire que le français exerce la magistrature de l'universel. Si souvent, mes frères, le regard que nous portons sur notre pays et sur notre Église gagne à être élargi par le regard que les autres portent sur la France. Que jamais nous ne perdions cet élan et cet appel qui nous ouvre à l'Église universelle et à la vraie vie. C'est là notre vocation de Français. Nous serons fidèles à cette vocation aussi longtemps qu'au pied de notre âme, en ce lieu de l'unité du monde. Nous serons les enfants de l'épouse du Christ qui récapitule en lui tout ce qui est humain et tout ce qui est divin, tout ce qui est sur terre et tout ce qui est au ciel. Nous serons fidèles à notre vocation française, insufflant à leurs compatriotes l'amour de la vérité, aussi longtemps que nous serons les enfants de celle qui a la Vierge Marie-Thérèse, l'Ecclésia catholique. Voilà notre enfance et voilà notre avenir. Que Dieu les bénisse et qu'il fasse de nous ses témoins. Dès la fin de la messe, nous veillons donc à ne pas nous attarder dans la cathédrale de manière à faciliter sa fermeture. Encore merci à vous tous ici que la Vierge Marie nous tienne en sa garde et sous sa protection.
Une fois de plus, sans vous dire tous ces temps, de redire aux Seigneurs.